Bienvenue dans La Vie en Bleu de ce lundi 24 mai. Je suis ravie de vous retrouver. Notre invitée cet après-midi en duplex de Poitou est Anne Ouvrard, biologiste animale. Elle est la responsable du programme Panthera au sein de l'association, qui est aussi une ONG, Objectif Science Internationale. Le programme Panthera est un programme de sauvegarde et de préservation de la panthère des neiges au Kyrgyzstan. La panthère des neiges est inscrite sur la liste rouge des espèces en danger depuis 1985 et sa protection est devenue une nécessité pour sa survie. C'est pourquoi l'association Objectif Science Internationale organise chaque année depuis 3 ans, ça sera la 4e année cette année, des expéditions sur le terrain au Kyrgyzstan pour étudier le comportement de la panthère des neiges et le suivi de l'évolution de sa population. Anne Ouvrard a participé à la dernière expédition en date et vient nous raconter cet après-midi ce qu'elle a vécu et vu pendant un mois à cette occasion. Anne Ouvrard, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Et on salue nos confrères de Poitou, puisque vous êtes installés dans les studios France Bleu de Poitou. Comment vous êtes-vous retrouvée, vous, à titre personnel, comme ça, au Kyrgyzstan, sur les traces de la panthère des neiges?
Eh bien, alors, en fait, j'ai trouvé du travail au sein de l'association Objectif Science Internationale l'année dernière. Tout d'abord pour animer, en fait, des classes découvertes et des séjours de vacances pour des enfants. Et puis, en fait, il se trouve que je suis partie pendant un mois au Kyrgyzstan pour encadrer, là, du coup, des adultes et des jeunes adolescents pour cette expédition scientifique sur les traces de la panthère des neiges.
C'est comme ça que est née cette aventure pour vous. Alors, on va expliquer que cette expédition qui a lieu, donc ce sera la 4e année cette année en 2010.
La cinquième année.
Oui. J'en ai raté une.
C'est pas grave.
Cinquième année cette année. Être faite à la fois de scientifiques et de non-scientifiques. Hein. L'idée, c'est justement de les faire se rencontrer et de travailler ensemble sur les traces de cette panthère.
Tout à fait, c'est ça. En fait, là, c'est vraiment une découverte. C'est-à-dire que c'est une expédition qui est ouverte à quiconque qui s'intéresse, qui est sensibilisé à la protection de l'environnement, la protection de la nature, de la faune sauvage. Et donc, tout ça se fait en collaboration avec des scientifiques, donc des scientifiques français qui viennent avec nous sur le terrain, et sur place, des scientifiques locaux, donc kirghiz, qui travaillent avec nous dans la réserve naturelle où nous allons.
Donc la prochaine qui aura lieu donc cette année entre le 1er et le 27 août, on va d'ores et déjà signaler que s'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui sont attirés par ce type d'expédition, ils peuvent encore s'inscrire et participer à cette expédition.
Tout à fait. Jusqu'au 15 juin, nous continuons les inscriptions. Après, il y aura un petit décalage jusqu'au 1er juillet, mais ça serait mieux quand même de s'inscrire avant le 15 juin.
On donnera hors antenne et puis à l'antenne aussi l'adresse du site internet pour ceux qui seraient intéressés. En tout cas, okay. On va découvrir avec vous ce que vous avez vécu au Kyrgyzstan et puis ça va être l'occasion de découvrir encore un peu mieux cette panthère des neiges. Je dis encore un peu mieux parce qu'il y en a peut-être qui nous écoutent, qui sont allés voir cette exposition qui se tient à la Maison des Parcs et de la Montagne de Chambéry, qui a démarré le 9 mars dernier et qui va se poursuivre jusqu'à samedi. L'entrée est libre hein, pour ceux qui veulent venir encore. Une exposition qui va être amenée d'ailleurs à tourner un peu partout sur le territoire, Anne, si je
oui,
ne m'abuse.
Hein. Oui. Pour l'instant, donc elle est à Chambéry jusqu'au 29 mai, donc jusqu'à samedi. Et puis ensuite, elle devrait partir à Nîmes en début d'année scolaire prochaine, au Muséum d'Histoire Naturelle de Nîmes. Et puis on espère après pouvoir la faire circuler dans différents endroits de la France.
Avec même un petit film qui devrait aussi
c'est
voir
ça,
le jour,
exactement.
Qui a été tourné pendant l'expé.
Tout à fait. La bande-annonce est déjà actuellement présentée à l'exposition de Chambéry. Et on espère que le film va bientôt se terminer, que le montage va bientôt se terminer pour pouvoir en profiter très vite.
Anne Ouvrard, vous restez avec nous jusqu'à 15h. On va inviter nos auditeurs, comme tous les jours, s'ils le souhaitent, à prendre la parole dans cette émission. Si vous avez une question à poser, si vous voulez réagir, n'hésitez pas. C'est possible sur la ligne bleue, comme tous les jours, 0820 20 1992. A tout de suite, Anne. On va écouter Jean-Jacques Goldman. On ira.
Les plus belles chansons françaises sont sur France Bleu, Pays de Savoie.
Tu me crois, ben. Un jour on partira. Si tu me crois, ben. Un jour.
On ira, Jean-Jacques Goldman, à l'instant sur France Bleu Pays de Savoie, 14h10.
France Bleu Pays de Savoie, Sylvia Depierre.
L'invitée de cet après-midi dans La Vie en Bleu est Anne Ouvrard. Elle est biologiste animale. Elle est responsable du programme Panthéra, un programme de sauvegarde et de préservation de la panthère des neiges au Kyrgyzstan. Anne Ouvrard, ça va être l'occasion, même si on fait de la radio, de nous expliquer, de nous décrire à quoi ressemble cette panthère des neiges. Donc je vais vous laisser tout le loisir de nous expliquer ça.
Oui, d'accord, très bien. Alors souvent, en fait, la panthère des neiges, on l'appelle aussi parfois le léopard des neiges. Donc en fait, il se trouve que c'est le même animal. C'est une mauvaise traduction de l'anglais parce que en anglais, la panthère des neiges s'appelle la snow leopard. Et donc voilà, donc du coup en fait c'est vraiment le même animal. Et il se trouve que la panthère des neiges, donc le léopard des neiges, ressemble étrangement au léopard qu'on trouve en Afrique. Donc le léopard d'Afrique est plutôt jaune doré, il a un pelage un peu doré avec des taches noires. Et donc la panthère des neiges, elle est plutôt plus claire, donc plus beige blanche avec ces mêmes taches noires. Donc voilà.
Des neiges parce qu'on la trouve à haute altitude ?
Exactement, c'est ça. Donc en fait, c'est un animal qui vit en Asie centrale, donc dans 12 pays, son aire de répartition, c'est 12 pays d'Asie centrale, au nord de l'Inde en fait. Et donc elle vit en haute altitude entre à peu près 3000 et 5000 mètres d'altitude. Et donc voilà, c'est ça. Son pelage permet un mimétisme parfait, donc c'est-à-dire qu'elle se confond vraiment avec un paysage assez désertique de haute montagne, donc des rochers, très peu de végétation, ou de la végétation très basse, très rase, entre 3000 et 5000, voire 6000 mètres d'altitude.
Et alors, combien sont-elles ? Est-ce qu'on arrive à estimer la population de cette panthère des neiges ?
Alors, c'est une estimation qui est très difficile à faire, parce que c'est un animal qui est qui est solitaire d'une part, et puis en fait, qui est également très craintif. Donc en fait, c'est difficile de l'étudier, mais l'estimation a été faite entre à peu près 3000 et 7000 individus en tout, donc dans le monde, donc dans ces 12 pays d'Asie centrale. Mais voilà, c'est une estimation qui est très large, une fourchette très large. On passe c'est plus du double en passant à 7000, donc voilà, c'est vraiment difficile de savoir, d'estimer cette population. Donc ça fait partie du travail qu'on essaye de faire chaque été quand on y va nous aussi, d'estimer cette population au Kyrgyzstan, donc qui est juste un petit pays où se trouve cet animal, mais dans une réserve naturelle où a été mis en place une démarche de protection. Et donc pour voir si cette démarche fonctionne, c'est intéressant de savoir si depuis tant d'années il y a plus d'individus, etc. Donc ça fait partie de cette estimation de la population.
C'est pour ça que vous avez choisi le Kyrgyzstan, c'est parce qu'il y a une réserve naturelle et qu'on a mis en place un programme sur place ?
Alors tout à fait, en fait il y a plusieurs réserves naturelles dans ce pays, mais nous on était en fait en contact avec des scientifiques et des gardes-chasse locaux, donc kirghizes, qui travaillent sur place dans cette réserve naturelle où nous allons, qui s'appelle la réserve de Sarychat Ertash, qui est pour ceux qui connaissent le Kyrgyzstan, qui est au sud du lac Issyk-Kul, qui est un des plus grands lacs de montagne, deuxième plus grand lac après le lac Titicaca, donc qui est assez connu pour ça. Et donc voilà, donc c'est au sud de ce lac que se trouve cette réserve. Et donc on a choisi cette réserve justement, voilà, parce qu'on connaissait des gens sur place qui travaillaient sur cette espèce, que c'est une réserve qui a très peu de moyens. Et donc voilà, on voulait les soutenir et les aider dans cette démarche.
De quoi elle vit, cette panthère des neiges ?
Alors en fait, donc comme je vous disais tout à l'heure, elle vit en solitaire. Le seul moment où elle se retrouve à plusieurs, c'est au moment de la reproduction, où en fait les deux partenaires se retrouvent. Et puis après, au moment de la mise bas, le mâle s'en va et la femelle reste avec ses petits jusqu'à un an et demi, voire deux ans. Et à partir de un an et demi, deux ans, les jeunes s'en vont. Donc à part cette période-là, la panthère est vraiment un animal solitaire qui vit donc dans ces hautes montagnes et qui se nourrit de plusieurs animaux. Donc ses plus grosses proies, ça va être les argalies et les ibex, qui sont en fait des mouflons et des bouquetins. L'ibex, c'est l'équivalent en fait du bouquetin qu'on a dans les Alpes chez nous. Et puis après, selon les saisons, ça peut être aussi d'autres animaux tels que la marmotte, les lièvres, voilà, des plus petits rongeurs. Donc voilà, elle se nourrit de ces animaux-là principalement.
Et par rapport à la reproduction, est-ce qu'elles font beaucoup de petits à la fois?
Alors, généralement, dans la nature, c'est des portées de deux petits, sachant qu'après, en captivité, dans les zoos, on a vu des portées beaucoup plus grandes. Mais ça, c'est vraiment, enfin, c'est pas naturel dans le sens où, dans la nature, les conditions sont telles que la vie est vraiment difficile en haute altitude. Donc, la femelle n'est pas capable d'élever plus de trois petits à la fois. Donc, généralement, la moyenne, c'est de deux. Mais c'est possible. Trois, ça arrive également. Mais généralement, deux, c'est viable, alors que plus, ça devient très difficile pour la femelle.
Alors, on va expliquer à nos auditeurs d'ici quelques instants quelles sont les menaces qui pèsent sur elle, puisqu'on verra le pourquoi de ce programme Panthera. Et puisque vous êtes allé faire, évidemment, au Kyrgyzstan, si vous avez réussi à la voir, cette panthère qui se cache beaucoup, on l'a bien compris. On va se retrouver dans quelques instants. Et puis, je rappelle à nos auditeurs, alors, auditeurs qui peut-être vous avez vu l'exposition qu'il y a encore, d'ailleurs, à la Maison des Parcs et de la Montagne de Chambéry, peut-être assisté même aux conférences qui ont été données. Vous étiez venue, d'ailleurs, vous, Anne, le 15 avril dernier. Donc, ceux qui nous écoutent et qui se sont intéressés au sujet, s'ils ont une question à poser, mais qu'ils en profitent, 0820 20 1992. Ceux qui sont avides de voyage et de science, qui veulent peut-être se renseigner pour partir au Kyrgyzstan, là encore, vous pouvez nous joindre, 0820 20 1992. On se retrouve dans quelques minutes, oui. Anne, juste après avoir écouté un nouveau duo, c'est Raoul Paz qui chante avec Camille, Carnaval. France Bleu.
Complicar, vengo directo del 69. Lo que pudo pasar, lo que nunca hice bien, solo recuerdo lo que me conviene. Yo solo sé que estoy empujando la puerta de este carnaval. Oh, la 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 la. De este carnaval. Oh, la 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 la. No me pregunte a mí lo que voy a decir en esta vida que dura un segundo. Yo sé lo que aprendí, soy lo que viví, siempre con ganas de morder el mundo.
Quiero gritar,
quiero poder,
quiero llegar,
quiero saber.
Y tú no ves que estoy empujando la puerta de este carnaval.
Siempre hay gente detrás que nos van a empujar. No sé qué día es hoy, me lo voy a inventar. Tiene que haber 10,000 razones.
¿Qué tal si nos miramos como si fuera normal? ¿Qué tal si nos juramos cosas que pueden pasar?
A mí me gusta cómo suena la risa cuando suena. A mí me gusta cómo toca las manos cuando quema. Me gusta que te guste la vida sin esquema. A mí me gusta querer que me quieran. Este carnaval. Se abra la puerta.
¿Qué? Querer el tiempo de intentarlo. De este carnaval. Oh, la, 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 la. Este carnaval. Oh, la, 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 la. De este carnaval. Oh, la, 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 la. Este carnaval.
Raoul Paz en duo avec Camille, Carnaval, 14h19.
14h-17h. La vie en bleu sur France Bleu Pays de Savoie. Sylvia Depierre.
La vie en bleu qui vous parle cet après-midi de la panthère des neiges. Alors ceux qui n'ont jamais vu une panthère des neiges, les invite vraiment à aller voir sur un moteur de recherche sur internet, parce que qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est belle cette panthère à Nouvrard.
Oui, tout à fait, elle est vraiment très belle.
Ah oui, alors
c'est
on est
un très, très beau chat, un très gros chat, mais très beau. Oui.
Un beau félin. Est-ce que vous avez eu la chance d'en voir pour de vrai?
Alors, il y a deux choses en fait. Donc, dans la réserve naturelle où on est parti pour l'expédition, malheureusement, nous n'en avons pas vu, sachant que bon, c'est vraiment le petit plus de l'expédition. Si on en voit, c'est vraiment le plaisir du moment. Maintenant, au niveau scientifique, c'est pas forcément, à moins de la voir pendant un petit moment, de pouvoir observer les comportements, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus, comment dirais-je, de plus pertinent. Mais voilà, c'est vrai que c'est vraiment le petit plus, le petit plaisir pour nous. Alors, par contre, la chance qu'on a eue cette année, c'est que dans la réserve naturelle, on utilise des pièges photographiques qui sont en fait des appareils photo qui prennent des photos qui se déclenchent avec le mouvement, en fait, le mouvement d'une brindille, le mouvement d'un animal, etc. Et cette année, on a eu la chance d'avoir une photo à la fin, quand on a été rechercher ces pièges photo, une photo de panthère, donc dans son milieu naturel, dans la réserve naturelle de Saritja-Tertesh. Donc ça, c'était le premier petit plaisir. Et puis ensuite, à la fin du séjour, une fois qu'on a été reparti de la réserve, avant de rentrer en France, on est passé par un parc, alors c'est pas vraiment un parc, c'est une association allemande en fait qui a une antenne au Kyrgyzstan de protection de la panthère des neiges, et qui a récupéré des panthères qui avaient été gardées vivantes chez des braconniers pour être vendues soit à des riches occidentaux, soit à des zoos, des cirques, etc., dont la réglementation n'est pas toujours pareille qu'en Europe. Et donc voilà, et donc du coup, ces panthères-là ont été récupérées chez ces braconniers. Elles étaient blessées et ne pouvaient plus se débrouiller seules dans la nature. Donc elles ont été mises dans ce parc, dans un parc de semi-liberté, à côté de Karakol, pas très loin de Karakol au Kyrgyzstan. Et donc voilà, donc on a eu la chance de pouvoir aller les voir. Donc on a vu des panthères en vrai, il y en a trois dans ce parc. Donc on a vu des vraies panthères, voilà.
Et après, celles-ci sont habituées à l'homme. Vous avez pu les approcher
Alors on les a pas approchées. Elles sont habituées à l'homme dans le sens où donc il y a une des panthères qui a été récupérée dans un cirque qui était illégal, enfin qui n'avait pas de papier réglementaire. Et puis deux autres qui elles ont été récupérées chez des braconniers. Donc elles sont imprégnées de l'homme dans le sens où ben voilà, elles ont vécu avec les hommes pas très loin. Maintenant c'est pas comme un chat qu'on a à la maison. On va pas aller le caresser ni rien. Donc on a pu s'en approcher, mais il y a toujours des grillages entre nous, et c'est très bien comme ça, parce que voilà, la panthère est pas faite pour vivre au contact de l'homme, donc voilà. Donc du coup, on a pu les voir de près. Donc ça, c'était vraiment l'avantage, mais voilà, ça reste un parc, même si c'est de la semi-liberté, ça reste fermé, il y a des clôtures, et voilà. Donc c'est pas l'idéal.
Mais ça reste des félins de toute façon.
Et hein, puis ça reste des félins, donc c'est vraiment pas l'idéal pour elles. Maintenant, c'est des animaux qui seraient certainement morts si on les avait relâchés dans la nature. Donc, mais pour faire au moins pire, je dirais, voilà, c'est la solution qui a été choisie.
Alors, quelles sont les menaces qui pèsent sur le léopard des neiges, puisqu'on a monté, entre autres, ce programme Panthera de protection, de sauvegarde?
Alors, il y a plusieurs menaces. Donc, la première, c'est le braconnage. Tout ce qui concerne le braconnage, avec différentes facettes. Le braconnage pour la peau, donc c'est-à-dire qu'on tue l'animal et qu'on va vendre la peau pour faire des vêtements, des manteaux de fourrure, etc., qui coûtent vraiment très très cher en Occident. Ensuite, il va y avoir toute la partie médecine traditionnelle chinoise, puisqu'on sait que les Chinois ont beaucoup tué de tigres pour leurs vertus médicinales au niveau des os, de la chair, etc. Maintenant, il y a très peu de tigres, il en reste très peu, donc ben voilà, on se rattrape aussi un peu comme on peut. Donc du coup, ben c'est vrai que après ils se sont reportés sur les panthères, donc il y a également ça. Donc pour la peau, pour les os et puis la chair. Et puis après, il y a tout ce que je vous disais tout à l'heure, les garder vivants, en fait, pour les revendre très cher, soit dans des zoos, soit dans des cirques. Alors évidemment, ça se passe pas en Europe, mais dans d'autres pays où la réglementation est beaucoup moins forte, ça peut arriver qu'on les retrouve dans des zoos ou dans des cirques.
Nous, normalement, en France, on devrait pas pouvoir en voir.
Non, comment ça?
Dans les cirques ou non, c'est
alors,
pas possible.
On peut voir des animaux dans les zoos, enfin des panthères des neiges dans les zoos.
Mais elles sont nées en captivité.
Les cirques, je sais pas trop, mais voilà, c'est ça la différence, c'est qu'elles sont nées en captivité et que c'est des échanges entre les différents zoos du monde. Alors plutôt zone européenne et puis éventuellement États-Unis. Maintenant voilà, c'est vraiment des animaux qui sont nés en captivité et qui n'ont jamais vu leur pays natal entre guillemets.
Et quant à leur proie, elles aussi, elles sont en diminution ?
Voilà, c'est ça. Alors ça, après toute cette partie braconnage, il y a toute la partie diminution du territoire, diminution des proies. Donc tout ça en rapport avec l'homme qui prend de plus en plus de place. Hein. Et puis la troisième grosse menace, c'est les représailles en fait, parce qu'évidemment, si elle a moins de proies à manger, parfois elle va prendre la facilité, c'est-à-dire le bétail quand il y a du bétail pas loin. Et donc si elle tue des animaux domestiques, donc des brebis, des moutons, etc. Les bergers parfois s'attaquent à elle en représailles à cette chasse qu'elles ont faite sur leur bétail. Et donc, du coup, voilà, là, généralement, elles sont tuées, sachant que c'est pas des gens qui font du braconnage ni rien. Donc, elles sont juste tuées et même pas forcément utilisées au niveau de la peau, etc. C'est vraiment pour éviter qu'elles retuent encore des bêtes chez eux.
On va découvrir encore un peu plus aussi ce programme Pantera qui a été mis en place par l'association Objectif Science Internationale, qui est une ONG, hein, Objectif
oui.
Science Internationale. Pour qu'on comprenne un petit peu, cette association a plusieurs programmes ou l'association a été créée pour ce programme en question, Pantera ?
Non, en fait, c'est une association à la base d'éducation aux sciences, donc avec un volet plus pour les enfants, donc par des classes scientifiques, des classes scientifiques découvertes, des vacances scientifiques, donc plutôt genre colonie de vacances, mais avec une thématique scientifique, avec une démarche de projet au niveau de la pédagogie. Et donc, ça, c'est la partie plus enfant. Et puis après, pour la partie plus adolescent et adulte, on a créé ce qu'on appelle des congés sciences solidaires, donc qui sont en fait des vacances pour adultes, mais avec toujours un projet scientifique, une démarche scientifique, et puis avec tout un volet aussi culturel et puis solidaire dans cette partie-là.
Et Pantera est l'un d'entre eux.
Voilà, Pantera est l'un d'entre eux.
Et ça va faire la cinquième année, donc cette année, qui est organisée cette expédition au Kyrgyzstan sur les traces de la Panthère des Neiges. Vous allez nous raconter tout ça dans quelques instants. A tout de suite à Nouvrar.
Nos deux départements, Savoie et Haute-Savoie, envisagent de fusionner. Qu'en pensez-vous ? Pour ou contre ? Votez dès maintenant sur notre site internet bleupaysdesavoie.com.
Je ne suis pas noir, je ne suis pas blanc, je ne suis qu'un homme en attendant. Je ne suis qu'un fou, mais pas pour longtemps. Je ne suis qu'un homme en attendant, en attendant. J'ai lu ton histoire trop vite sur ta peau. Je t'ai résumé en bien trop peu de mots. C'est tendance de dire qu'on vit bien avec nos différences, mais t'as peur d'en rire et oh, moi ça m'enchante. On auto-victimise, on se culpabilise, mais ça met nous, dis-moi ça met nous, ça met nous. Quand même pas nos pères ne nous ressemblent, quand même pas nos pères ne nous ressemblent. Je ne suis pas noir, je ne suis pas blanc, je ne suis qu'un homme en attendant. Je ne suis qu'un fou, mais pas pour longtemps. Je ne suis qu'un homme en attendant, en attendant. Nous rime à quoi quand on s'entretue? Vous, c'est quoi si entre vous êtes tu? Mais si dans 1000 ans, dans 100 ans, nos enfants ressemblent aux vôtres, qu'adviendra-t-il du sang impur et la cause des nôtres? On se communautarise, le ghetto divine, mais ça met nous, tout ça met nous. Quand nos pires péchés se ressent, quand même nos pires péchés se ressent. Je ne suis pas noir, je ne suis pas blanc, je ne suis qu'un homme en attendant. Je ne suis qu'un fou, en attendant, en attendant. Il n'y a pas de morale, juste réflexion. Ah, il n'y a pas de morale, juste à faire attention. Ah, tu peux bien rire dans mon utopie, mais avec je ne suis pas noir.
blanc. Je ne suis qu'un âne en attendant. Je ne suis qu'un fou, mais pas pour longtemps. Je ne suis qu'un âne en attendant. Je ne suis pas noir, je ne suis pas blanc. Je ne suis qu'un âne en attendant. Non, je ne suis qu'un fou.
En attendant, version acoustique, Corneille sur France Bleu Pays de Savoie.
La vie en bleu, Sylvia Depierre.
On estime leur population entre 3 et 7 000. Au Kyrgyzstan, on estime qu'elles sont 400. Il s'agit de la panthère des neiges qui est inscrite sur la liste rouge des espèces en danger depuis 1985. Sa protection est vraiment devenue une nécessité pour sa survie. L'association Objectif Science Internationale a organisé un programme qui s'appelle Panthera. Anne Ouvrard est notre invitée cet après-midi, elle est biologiste animale et c'est elle qui chapeaute ce programme Panthera. En quoi il consiste exactement ce programme Panthera, Anne ?
Alors en fait, comme vous l'avez dit, c'est un programme de protection, de préservation de la panthère des neiges. Et donc, il y a différentes choses. Mais la première, c'est que tous les ans, depuis 4 ans, nous partons sur le terrain au mois d'août pour en fait essayer d'aider, de donner un coup de main aux scientifiques locaux et aux gardes-chasse qui sont sur place, dans une réserve naturelle, pour le suivi, enfin leur donner un coup de main en fait pour le suivi de la population de la panthère. Donc vu que c'est un animal très solitaire et puis très difficile à voir, très discret. Ce qu'on va relever en fait sur le terrain, ce sont des indices de présence qui sont en fait tout ce qui est empreintes, des grattages également qu'elles font avec leurs pattes. Il va y avoir également des fesses, donc des excréments, des poils, des frottements sur des rochers. Enfin voilà, tout ça. Donc tout ça, ce sont les indices de présence qu'elle laisse sur son passage et que nous on va relever pour essayer d'en savoir un peu plus. Après, il peut y avoir également des analyses génétiques faites au niveau des fesses, donc des excréments. Donc on fait des prélèvements également des excréments pour ensuite pouvoir les faire analyser dans des laboratoires de recherche. Voilà.
Et qu'est-ce qu'on va découvrir avec tout ça, alors, par exemple ?
Alors, en fait, il se trouve que ça fait déjà depuis... Cette réserve a été... s'est créée en 1995, a été déclarée réserve naturelle en 1995. Et donc, depuis, a été établi, en fait, un programme de protection de la panthère des neiges. Donc, c'est une réserve naturelle intégrale, où il n'y a aucune, a priori, aucune menace qui pèse sur cet animal. Donc, ce qu'il faut qu'on essaye de voir maintenant, c'est est-ce que c'est efficace ? Donc, faire un suivi de population dans une réserve comme ça va permettre de savoir, au début, on avait estimé la population en 95 à tant d'individus. Maintenant, 10 ans plus tard, enfin maintenant ça fait un peu plus de 10 ans, mais 10 ans plus tard on l'estime à tant, 15 ans plus tard à tant, etc. Est-ce qu'il y a une évolution croissante de cette population ? Si oui, on va pouvoir dire que le programme de protection est efficace dans cette réserve naturelle. Si c'est l'inverse, peut-être qu'il va falloir revoir la façon d'aider ou de protéger cette panthère, parce que visiblement ça voudrait dire qu'on n'est pas efficace. Enfin, en tout cas, ça n'a pas l'air de fonctionner. Donc voilà, donc c'est important quand on met en place que ce soit en France ou dans le monde, d'une manière générale, quand on met en place un programme de protection, il faut pouvoir évaluer à la fin si c'est positif ou négatif. Parce que si c'est négatif, c'est qu'on fait les choses pas comme il faut, ou pas comme il faudrait en tout cas, et donc essayer de revoir ça. Donc là, ça fait partie du projet, c'est d'essayer de voir si cette protection est efficace à cet endroit-là. Et puis, d'une manière générale, c'est des données qui vont permettre d'enrichir toutes les bases de données internationales, pour également tous les autres pays où vivent les panthères, pour en savoir plus sur l'estimation au niveau mondial, c'est-à-dire entre 3000 et 7000 individus, c'est très vaste, donc ça permet d'en savoir un peu plus là-dessus.
D'ailleurs, concrètement, là, si on peut faire un premier bilan, quel est le bilan qu'on peut faire ? La population croît ? Est-ce que on va dans le bon sens ?
A priori, on va dans le bon sens. Il y a quelques années, la population était estimée à peu près 8 individus dans cette réserve naturelle au Kyrgyzstan. Donc c'est vraiment très peu. L'été dernier, on a eu la chance de trouver des empreintes de grosses pattes et puis juste derrière, de toutes petites. Donc on a supposé qu'il y avait des petits qui se baladaient avec leur maman. Donc voilà, donc a priori, c'est quand même positif. Maintenant, ça a besoin de se faire sur une longue période. C'est pas quelque chose qu'on peut estimer sur 2 ans, 3 ans. C'est vraiment quelque chose qui s'estime sur 20 ans, 50 ans, etc. Donc voilà, pour l'instant, elle est créée que depuis 95, cette réserve, et elle est menacée par diverses choses qui se passent autour d'elle. Donc il faut vraiment essayer de la préserver pour pouvoir en fait continuer justement la protection de la panthère et de tout son écosystème, parce qu'évidemment, tout est dépendant de ses proies, de son environnement, l'environnement. Et donc, si elle a plus de nourriture, elle ne peut pas survivre. Donc, ça sert à rien de protéger uniquement la panthère. C'est vraiment tout son écosystème.
Le programme Panthera, c'est juste un mois dans l'année ou le reste du temps, vous travaillez aussi là-dessus ?
Alors non, je travaille le reste de l'année, donc là c'est tout nouveau. Jusqu'à maintenant, c'était surtout une expédition qui se faisait donc tous les étés et puis avec un peu de suivi le reste de l'année, mais pas en continu pendant 12 mois. À partir de maintenant, c'est en train de changer parce qu'on est en train de mettre en place un programme que l'on espère viable sur toute l'année pour pouvoir travailler en continu sur des partenariats scientifiques avec des laboratoires de recherche, d'autres associations de protection de la faune sauvage, pour essayer d'avoir un poids scientifique un peu plus fort. Et puis après, essayer de faire contribuer toute la partie sensibilisation, etc., à cette protection d'écosystèmes de faune sauvage, avec des participants qui sont pas forcément des scientifiques, mais qui peuvent être des naturalistes amateurs ou des gens qui sont juste intéressés par tout ça. Donc voilà, donc on essaye de mettre en place, ça fait partie des projets, de mettre en place quelque chose qui est viable à l'année. Donc soit avec des expéditions qui partiront à d'autres moments que l'été, donc plus dans l'année, éventuellement quelques-unes en plus. Ce qu'on espère pouvoir faire aussi, c'est essayer de créer des classes découvertes, ce qu'on peut faire déjà en France, essayer de voir si c'est possible de le faire au Kyrgyzstan, pas forcément en emmenant tout de suite des enfants, mais en essayant de faire un échange avec des écoles kirghizes, par exemple, dans des petits villages, pour essayer de mettre en place la sensibilisation, et que ce soit au niveau local, donc des populations locales, mais également des populations occidentales. Il y aurait vraiment un échange culturel entre les enfants de français et puis kirghizes.
Alors en ce jour où les instituteurs, institutrices ne travaillent pas, s'il y en a qui nous entendent et qui sont potentiellement intéressés pour se rapprocher de l'association, c'est faisable.
Voilà, exactement.
C'est
vraiment le but, c'est d'essayer de créer un projet, de monter des projets en fonction de l'attente des gens. Parce que pour les adultes, ce qu'on appelle les congés sciences solidaires, en ce moment il y avait l'expédition au mois d'août. Mais l'idée c'est aussi de pouvoir partir à d'autres périodes de l'année, même si c'est juste avec deux personnes, une personne, trois personnes, qui ont envie de d'œuvrer pour quelque chose sur le terrain, que ce soit pour protéger la panthère, ou que ce soit pour essayer d'aider les gardes sur place. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire au niveau de la sensibilisation aussi, dans les écoles, même dans les villages, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire, que ce soit avec des adultes à toute période de l'année, ou alors après avec des instituteurs, pour un échange qui peut être d'abord postal, en fait, par courrier ou par mail, pour essayer de voir, au niveau culturel, essayer d'avoir des échanges. Et puis ensuite, ça peut aboutir plus tard sur un échange physique avec les petits Kirghizes qui pourraient venir en France, et inversement des petits Français qui pourraient partir au Kyrgyzstan. Mais ça c'est vraiment des projets à monter en fonction des envies de chacun.
Ça laisse présager plein de bonnes choses pour l'avenir.
Oui, j'espère.
D'autant qu'avec ce mélange scientifique-non-scientifique, ce qui est intéressant, c'est que les non-scientifiques que nous sommes, on n'est pas juste des observateurs, on peut aussi mettre la main à la pâte et on est vraiment utile pendant l'expédition.
Tout à fait, c'est vraiment
le but. On va rentrer dans le détail dans quelques instants. Vous allez nous raconter un petit peu comment s'est passée cette expédition que vous avez vécue l'année dernière, Anne, en été dernier, nous présenter aussi un peu le Kyrgyzstan, dans quel décor vous avez évolué, à quelle altitude, à quel rythme, vous étiez sur des chevaux en partie, donc on va raconter tout ça après Isabelle Boulet. Un jour ou l'autre.
Les plus belles chansons françaises sont sur France Bleu, Pays de Savoie.
Puisque tu sais le temps qu'il m'a fallu pour arriver au coin de ta rue, puisque derrière tes paupières baissé, tu as suivi les routes où j'ai marché, puisque tu vois la couleur de mes nuages et les photos qui rient dans mes bagages, je garderai tous ces morceaux de nous tu as laissé casser un peu partout. Un jour ou l'autre, on se retrouvera comme un matin d'enfance. Un jour tout autre, on se reconnaîtra pour une autre. Tu as réveillé
Isabelle Boulet, tout en douceur pour vous accompagner en ce début d'après-midi.
La vie en bleu sur France Bleu Pays de Savoie, Sylvia Depierre.
Anne Ouvrard nous parle cet après-midi de la Panthère des Neiges, puisqu'Anne, vous êtes partie dans le cadre du programme Panthéra sur les traces de cette Panthère des Neiges l'année dernière au Kyrgyzstan. Le Kyrgyzstan que l'on situe en Asie centrale?
Oui, exactement. Hein, c'est ça. En fait, c'est un tout petit pays, le Kyrgyzstan, qui se trouve à la frontière au nord-ouest en fait de la Chine. Donc voilà, au nord de l'Inde, mais voilà, c'est avec une frontière commune avec la Chine.
À quoi ressemble le Kyrgyzstan? Quel climat?
Alors bon, c'est
plutôt aride.
Oui, alors ça dépend vraiment de l'altitude à laquelle on se trouve. Nous, on est monté, on vivait en fait entre 3000 et 4000 mètres d'altitude. Donc à cette hauteur-là, en effet, on est déjà à une altitude assez élevée, ce qui fait que voilà, les décors sont vraiment, c'est des très grandes vallées qui sont à peu près à 3000 mètres d'altitude, donc ce qui est déjà très haut. Et puis tout autour, des grandes crêtes qui montent jusqu'à 5000 voire plus 6000 d'altitude. Donc voilà, donc c'est vraiment très rocailleux, c'est des grosses de très grosses pierres avec très peu de végétation, enfin de la végétation très rase, en tout cas à cette altitude-là. Après, quand on est à Bishkek, à la capitale, ou dans les vallées avec beaucoup moins haute altitude, il y a des vergers, enfin je veux dire, voilà, c'est pas du tout, ça dépend vraiment où on se trouve dans le pays.
Vous êtes parti à combien dans cette expédition?
Alors l'année dernière, on est parti à 8 Français. Et puis sur place, après, on a retrouvé des Kirghizes. Et donc, on est parti un mois tous ensemble. Sachant que la première semaine, c'était vraiment la partie acclimatation du corps, en fait, aux différents paliers d'altitude. Puisqu'on allait vivre après à 3000 mètres d'altitude, il a fallu le temps de s'acclimater. Donc la première semaine, voilà, on a monté différents paliers jusqu'à 3000 mètres d'altitude en faisant des pauses chaque jour, parfois on restait deux jours au même endroit pour avoir le temps de laisser le corps s'habituer à ce changement d'altitude.
Et ensuite, en moyenne, vous avez changé de camp à quel rythme?
Alors voilà, une fois qu'on a été dans le cœur de la réserve, donc pour partir au cœur de la réserve, on est parti à cheval, donc avec tout le matériel scientifique, le matériel, toute la nourriture, tout notre matériel personnel, pour être en autonomie après pendant pratiquement trois semaines, à peine, entre deux semaines et trois semaines. Et donc là, on est parti au cœur de la réserve, où se trouvent différents camps de base. Et donc, on changeait de camp à peu près tous les 4-5 jours. Et donc, ben voilà, quand on était à un même camp, on partait chaque jour à cheval avec juste un petit sac à dos pour nos affaires pour la journée. En fait, on s'arrêtait, on partait dans les vallées à cheval et puis on s'arrêtait au point où on avait décidé de commencer les relevés, qui étaient généralement des lignes ascendantes où on allait grimper en fait à pied. Donc on laissait les chevaux en bas à 3000 et puis on montait à pied chaque jour jusque sur les crêtes tout en haut et c'est là qu'on faisait les relevés d'indices de présence. Et puis après, au bout de 5 jours, on reprenait tout le matériel. Donc avec les chevaux, la nourriture, le matériel scientifique, etc. Et on changeait de campement, on se réinstallait dans un nouveau camp. Et puis après, chaque jour, on repartait sur des nouvelles crêtes.
C'est une sacrée aventure humaine aussi, ça.
Oui, tout à fait. Vraiment, là, ça a été. On a été une petite équipe, donc 8. C'est tout à fait. C'est très bien au niveau nombre de personnes. C'est vraiment un très bon chiffre. Donc, c'était vraiment une bonne petite équipe française. Et puis une très très bonne équipe franco-kirghize, parce que voilà, la découverte de la culture, des traditions kirghizes sur place, vu qu'on vit avec eux dans la réserve. Et puis voilà, on vit dans des petits campements. C'est des petits wagons anciennes. Algéco russe en tôle ondulée.
Vous êtes en Algéco.
Alors en fait non, chaque campement a son petit Algéco, donc ce petit wagon qui sert de pièce de vie commune. En fait c'est là qu'on va passer les soirées à faire de la musique, à chanter, à faire à manger, etc. Après il va y avoir la partie tente où nous en fait on dort sous tente pour avoir notre petit coin quand même un peu d'intimité, être un peu plus tranquille pour la nuit. Voilà, mais après c'est la pièce de vie commune en fait, ces petits Algéco, c'est là qu'on entrepose le matériel, la nourriture, etc. Et puis ça fait un point quand même un peu en dur si toutefois il pleut et que voilà, qu'on veut s'abriter. Donc, mais c'est vraiment la pièce de vie commune où généralement on passe les soirées agréables à faire des jeux kirghizes ou alors à chanter. Parce que l'année dernière, on a eu la chance d'avoir un garde-chasse, Oulan, un jeune garde qui était également compositeur, enfin en tout cas passionné de musique,
ah,
et qui avait
ça.
Sa guitare. Donc, du coup, on a eu la chance de pouvoir passer les soirées avec de la musique kirghize. Ouais, exactement.
Vous avez découvert par la même occasion toute cette culture kirghize qu'on connaît pas évidemment forcément ici en France.
Ouais.
Qu'est-ce que vous avez mangé aussi? Est-ce que vous avez mangé des choses dont vous n'avez pas l'habitude?
Alors tout à fait, c'est pas forcément très commun. Bon, en fait, l'alimentation de base, ça va être des féculents, donc tels que du riz, des pommes de terre, ce genre de choses, mais toujours accompagné d'épices en fait pour donner du goût, parce que c'est vrai que du riz blanc comme ça sans rien, c'est pas forcément.
On se lasse vite.
Voilà, exactement. Et puis la viande principale, c'est le mouton. Donc nous, on a mangé du mouton pendant tout le temps. On avait tué le mouton juste avant de partir dans la réserve, et donc on l'a conservé dans du sel en fait, et puis on l'a emmené avec nous en morceaux. Donc voilà, donc on fait cuire le riz avec toute la viande, quelques petites carottes, quelques petites patates pour essayer d'agrémenter un peu. Au début du voyage, on avait aussi quelques fruits. Alors on avait des pastèques, des abricots, on avait des tomates aussi, parce qu'en fait il y a pas mal de cultures là-bas quand même de tout ça. Il y a énormément d'abricotiers dans la région.
Mais après, vous étiez trop haut forcément pour retrouver ce genre de choses.
Donc voilà, tout ça en fait, on a emmené en fait toute notre nourriture, on a tout emmené parce que dans la réserve on n'avait plus rien. Après on n'avait rien sur place, donc on a tout emmené. Mais voilà, tout ce qui était périssable, les tomates, etc. qu'on n'a pas pu conserver très longtemps, c'est ce qu'on a mangé au début du voyage. À la fin, mais voilà, ça revenait plus souvent, les carottes, les patates, voilà. Mais au début, on avait quand même quelques crudités et quelques fruits.
Et donc principalement le mouton comme viande.
Voilà, principalement le mouton. Alors après, il y a la spécialité qu'on appelle le koumis. Donc ça, moi, j'ai pas pu en manger. C'était
c'est
vraiment
quoi,
très particulier. En fait, c'est du lait de jument fermenté. Et en fait, c'est tellement fermenté que ça a un goût alcoolisé. Enfin, en fait, c'est très très fort. T'as l'impression de boire du lait alcoolisé. Donc c'est très particulier. Bon, moi personnellement, j'ai pas réussi à en boire, mais voilà, eux là-bas c'est vraiment le, enfin ils boivent ça comme du petit lait, c'est le cas de le dire, et c'est vraiment leur boisson traditionnelle, ils en boivent tout le temps, voilà, c'est vraiment le truc qu'ils adorent.
Et pour communiquer avec eux, en anglais?
Alors pas du tout, parce qu'ils parlent très peu l'anglais, quelques administrations en ville, mais pas dans la réserve, en tout cas pas les gardes-chasse et pas les scientifiques, enfin très peu les scientifiques. Donc en fait on avait un interprète qui était avec nous, donc un kirghiz qui parlait français. D'ailleurs c'était très intéressant parce que au début, c'était un peu comme nous quand on se retrouve en Angleterre ou en tout cas dans un pays anglophone, c'est un peu difficile de se mettre à parler la langue. Et puis en fait au bout d'un mois, il parlait vraiment très très bien, et il s'était vraiment voilà, le fait de parler, de discuter en continu avec nous, c'était vraiment impressionnant les changements. Puis nous du coup, on a également appris pas mal de petits mots kirghizes, donc ça c'était sympa aussi.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en kirghize?
Alors qu'est-ce que je peux vous dire?
Je sais pas ce que vous voulez. Bonjour, comment on dit bonjour en kirghize?
Salam.
Salam.
En fait, c'est comme dans les pays, parce qu'ils sont musulmans, donc c'est comme
salam
dans les pays arabes. Donc on a appris quelques mots en russe, quelques mots en kirghize. Donc par exemple, merci, ça va être rahmat en kirghize. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La panthère, c'est le bars. Donc B-A-R, enfin ça s'écrit pas comme ça parce que l'alphabet est pas du tout pareil,
mais
B-A-R-T-H. Voilà, donc voilà, quelques petits mots comme ça. Et puis donc oui, c'était vraiment un échange sympathique sur place, tout ça.
Ouais, une expérience scientifique, mais aussi humaine, hein.
Faut pas oublier
cette dimension-là.
Non, c'est vraiment, je pense qu'en plus, quand on revient, c'est vraiment la partie qu'on a retenue le plus. C'est-à-dire que, en effet, on a fait plein de choses, on a découvert plein de choses. Les gens se sont formés sur le terrain dès le deuxième jour, ils sont indépendants, ils sont capables de trouver les traces de la panthère, etc. Donc ça, c'est vraiment le côté scientifique sympathique. Après, c'est vraiment l'aventure humaine qui fait qu'on revient et on se dit, bon, mais quand est-ce que j'y retourne, quoi.
Voilà. Donc prête à y retourner cette année, au mois
exactement,
d'août. Bon,
exactement.
C'est du 1er au 27 août, hein, ceux qui nous écoutent qui sont tentés. 0820 20 1992 pour nous joindre, on vous dira tout. Anne, on se retrouve dans quelques instants. Vous nous raconterez aussi ce que vous avez vu, parce que si malheureusement il est très difficile de voir la panthère des neiges, c'est surtout les traces que vous voyez, vous avez vu d'autres animaux.
Oui,
donc
tout
on
à
va
fait.
Y venir.
Allez,
on l'évoque dans quelques instants.
Les 28 et 29 mai, c'est la fête historique du centre ancien de Chambéry. Une grande fête populaire dans les rues de Chambéry. Déambulation, théâtre, jeux, chants, camps et combats. Et un bal pour ouvrir les animations le 28 mai à 20h30. Organisée dans le cadre des 150 ans du rattachement de la Savoie à la France, la fête historique du centre ancien de Chambéry, les 28 et 29 mai, avec France Bleu.
Sur France Bleu Pays de Savoie.
Jusqu'à 17h, la vie en bleu sur France Bleu Pays de Savoie, Sylvia Despierres.
Anne Ouvrard est avec nous en ce début d'après-midi pour nous raconter le programme Panthéra, un programme de sauvegarde et de préservation de la panthère des neiges au Kyrgyzstan. Au Kyrgyzstan, où vous êtes partie l'année dernière, Anne, et vous allez repartir encore cette année, toujours dans le cadre de ce même programme. Alors on l'a dit, hein, c'est très difficile de la voir, cette panthère des neiges, parce qu'elle est plutôt sauvage, plutôt solitaire. Pour autant, vous avez vu pas mal de faune aussi au Kyrgyzstan, et notamment, moi j'ai retenu le gypaète barbu, parce qu'on en parle souvent et on en parlera dans deux jours d'ailleurs dans cette émission. Donc il est présent aussi là-bas.
Oui, tout à fait. On a vu énormément de rapaces, on a eu la chance de voir beaucoup de rapaces, donc le gypaète barbu, en effet, on a vu également des vautours de l'Himalaya, l'aigle royal également, et puis après énormément d'autres petits oiseaux qui sont multiples et variés dans la réserve. Et puis après, ce qu'on a vu aussi souvent, c'est des troupeaux de d'argalies et de d'ibex, qui sont donc les principales proies de la panthère, donc qui sont en fait le mouflon et le bouquetin. Et puis après, ce qu'on a pu voir aussi, c'est énormément de petites marmottes, des lièvres. On a vu des renards aussi. Quelques participants ont eu la chance de voir au loin des loups, trois loups, voilà, qui partaient, enfin qui s'enfuyaient en fait, parce qu'ils nous avaient vus avant qu'on les voie. Et puis après, on a vu également des traces d'ours, mais on n'a pas eu la chance d'en voir en vrai, bien que ça doit
oui,
être
je sais pas
quand
si
même
c'est une
assez impressionnant.
Ou...
bah voilà, c'est, voilà, ça dépend comment ça se comment se comment, se comment le contexte voilà se trouve, mais en tout cas voilà, on a vu des très belles traces d'ours près d'une rivière.
Et vous avez vu des marmottes à cravate rouge.
Oui, exactement, c'est ça. En fait, c'est des marmottes bon qui ressemblent énormément aux petites marmottes qu'on a nous dans les Alpes. Hein. Mais voilà, elles ont cette petite particularité d'avoir sous le cou en fait une sorte bah oui ce qu'on appelle une cravate rouge. Alors c'est pas vraiment rouge, hein, c'est plutôt roux, mais assez prononcé quand même, une couleur assez prononcée. Et donc voilà, on voit cette petite différence au niveau du haut du thorax en fait.
Mais écoutez, je sens que je vous sens prête à repartir là, à la découverte de cette panthère des neiges. Ce qui serait bien, c'est que vous arriviez à en voir une, même si vous dites que c'est pas l'objectif principal de l'expédition. Ça n'empêche que si on a
c'est
la possibilité d'en voir une, ouais, ça doit être quelque chose quand même,
c'est hein, ça, c'est
dans
ça.
Son environnement naturel. Pour ceux qui veulent découvrir et en savoir plus aussi sur cette panthère des neiges, je rappelle que l'exposition se tient jusqu'à samedi à la Maison des Parcs et de la Montagne de Chambéry. Vous pourrez voir la panthère des neiges de plus près. Il y a de belles photos. Et puis on rappelle aussi donc Anne qu'il y a cette expédition qui repartira entre le 1er et le 27 août prochain, qui est ouverte à tout le monde, hein,
oui,
à tous ceux qui sont intéressés par la nature, à la préservation de l'environnement et qui veulent vraiment donner un petit coup de main, parce qu'ils ne sont pas seulement spectateurs, ceux qui participent.
Non, hein. vraiment, c'est vraiment être acteur d'un projet, d'un beau projet qu'il faut faire vivre. Et puis voilà, c'est vraiment tout âge. Alors, à partir de 16 ans, parce que plus jeune, c'est un peu plus compliqué, mais donc voilà, à partir de 16 ans jusqu'à, voilà, je ne donnerai pas d'âge parce que je voudrais vexer personne, mais à partir du moment où on se sent physiquement de pouvoir crapahuter un petit peu, il n'y a aucun problème jusqu'à 90 ans si on s'en sent le courage.
Si on est en forme.
Voilà, exactement.
Donc il y a des petites brochures ici à la Maison des Parcs et de la Montagne pour ceux qui viendront du côté de Chambéry. Et puis sinon, un site internet.
Oui, alors le site internet c'est www.prog-pantera, donc comme une panthère mais avec un A à la fin, .com.
prog-pantera.com, si vous n'avez pas eu le temps de noter, vous n'hésitez pas à nous joindre à France Bleu Pays de Savoie sur la ligne bleue. Merci beaucoup Anne Ouvrard de nous avoir raconté la panthère des neiges, ça donne envie d'aller la voir, les photos sont magnifiques.
Ouais,
on a hâte de voir le film aussi qui sortira après puisqu'il a été tourné et qu'il est en cours de montage.
Oui, il a été tourné l'été dernier pendant l'expédition dernière.
On vous souhaite encore une belle expédition, puis amusez-vous bien alors.
Merci.
Parce que c'est aussi ça apparemment, beaucoup de plaisir.
Oui.
Merci Anne, merci aussi à nos confrères de France Bleu Poitou et bonne continuation à vous.
Merci à vous aussi.
Au revoir. France Bleu, pays de Savoie. Et on termine l'invité de La Vie en Bleu avec Amaury Vassili en musique, c'est Alléluia.
I hear there was a secret chord that David played and it pleased the Lord.